Alexandra, j'ai failli te faire un coup.
Quoi?
Et j'ai failli te faire un coup. J'ai failli ouvrir les micros, mettre mes écouteurs de côté, puis te dire, vis ton moment. Puis.
T'en aller?
Puis m'en aller.
Non, t'aurais pas pu faire ça.
Une ancienne collègue à moi, Catherine Godreau, était une fan finie de Rock Voisine.
OK.
Et, c'est son anniversaire. Et, okay. et je réussis à booker Rock Voisine.
Okay.
Mais elle le sait pas. Alors, je dis, Catherine, je dis, bon anniversaire. J'ai dit, on te laisse les ondes pour les 10 prochaines minutes. Alors, je mets mes écouteurs. Elle sait pas c'est qui. Là, elle dit bonjour. Là, ça dit bonjour, c'est Rock Voisine. Mais là, elle est pas préparée pour l'entrevue. Fait que là, elle a, écoute, on est l'autre bord de la fenêtre. Fait que j'aurais pu faire ça.
Non!
J'aurais pu faire ça pour notre prochaine invitée qui vient de lancer le livre intitulé Mordu de la pêche.
Comme son émission?
Mesdames et messieurs, Cyril Choquet, bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, salut, merci beaucoup pour l'invitation. Ça va très bien.
Et ça fait, Cyril, ça fait des années que j'essaie de vous avoir en entrevue. Et là, j'ai vu passer donc votre livre qui est lancé cette semaine. Et là, je me suis dit, voilà, on a notre chance. Et ça s'est fait rapidement, Alexandra, la demande a été placée ce matin.
Oui.
Alors, Cyril Choquet, parlez-moi un peu. Moi, je vous connais pas du tout. Vous êtes qui, vous?
Alexandra, je te laisse expliquer.
Ben, écoute, pour moi, Cyril, c'est le meilleur animateur chasse et pêche, tout confondu. Là. Son émission, là, c'est une vraie religion pour moi. L'émission Mordu de la pêche, où on le voit les pêcheurs un peu partout dans le monde, là, c'est quelque chose. Richard, il faut que tu ailles écouter ça au moins une fois. Là.
Oui, je sais, parce que j'ai pas encore le canal Évasion, mais je vais aller me le chercher. Là. On me dit que votre émission, c'est les mardis soirs, je pense, c'est ça?
Je crois que c'est le mardi soir en effet. Bah l'idée, ouais, non mais comme disait Alexandra, l'émission c'est une émission qui est quand même à la télévision au Québec depuis d'ailleurs le Québec, ça a été le premier public qui a accepté, qui m'a mis au monde en fait, et je remercie le Québec pour ça. C'est vraiment là que j'ai fait mes débuts et le Québec, malgré, on est quand même dans 140 pays aujourd'hui, mais le Québec est hyper important pour nous. Notre gros fanbase est au Québec. On a des super partenaires diffuseurs, téléviseurs en télévision ici au Québec qui nous permettent de faire cette série avec d'autres, bien sûr, sur la planète. Ça a commencé il y a 10 ans. Donc l'émission, c'est des voyages d'aventure, de pêche un peu partout sur la planète, à la recherche de poissons extraordinaires, de gros poissons, mais aussi des petits des fois, mais parce que j'aime autant les petits que les gros, moi. Puis découverte du monde, découverte des gens, rencontre des cultures différentes. C'est vraiment un show trippant. La prémisse du show, il y a 10 ans, il y a 15 ans même quand je l'ai créé, c'était de faire un show différent, de voyager la planète avec un backpack sur le dos, d'aller rencontrer les gens du coin, puis faire ça vraiment à la bonne franquette. Puis c'est un peu resté ça. C'est sûr que maintenant, on va chercher des plus gros poissons dans des endroits encore plus perdus, parce que malheureusement, la réalité de la planète, c'est qu'il faut aller de plus en plus loin pour trouver des poissons sauvages, parce que on les surpêche, tous ces pauvres poissons. Donc voilà. Voilà un peu ce que c'est l'émission, si ça t'éclaire un peu.
Ça me donne le goût.
Mais ce que je trouve le fun, c'est que dans l'émission, autant on s'en va aux quatre coins de la planète découvrir des endroits complètement perdus parfois, mais magnifiques, qu'autant que tu prends toujours la peine de venir ici au Québec, sur des lacs du Québec, pêcher des poissons d'ici aussi.
Ben oui, j'adore la pêche au Québec. D'ailleurs, je vis au Québec. J'habite au Québec depuis 15 ans, depuis 20 ans presque.
Bon, alors Cyril, elle s'appelle comment?
Elle s'appelle Stéphanie. J'ai même deux petites filles qui sont nées au Québec.
Mais c'est une Québécoise? Est-ce que Stéphanie est québécoise?
Oui, absolument, oui. Absolument. Et mes deux filles sont plus québécoises que moi. Moi, j'ai le passeport canadien, mais mes deux filles sont nées au Québec, à Montréal, et elles ont grandi au Québec, elles ont un accent québécois.
OK, mais je suis tellement pas surpris, tous les Français qui débarquent ici nous volent nos blondes.
C'est une des raisons pour laquelle on est venu ici, il y avait des super belles femmes et puis des très beaux poissons, donc ça suffit.
mais je me demande, Cyril, tu parles combien de langues? Parce qu'on voit dans l'émission, là, tu t'en vas aux quatre coins de la planète. Toi, personnellement, combien de langues tu es capable de parler?
J'en parle quatre. Je parle l'anglais, l'espagnol, l'anglais couramment, l'espagnol pas autant que l'anglais, mais bien. Et je parle assez bien le portugais, mais je dirais pas que je parle comme l'espagnol. Puis après, je baragouine des mots d'arabe, des trucs comme ça, d'autres langues, un peu de thaï, des choses comme ça, quoi. Mais ouais, vraiment, c'est français, anglais, espagnol, les grosses langues, et puis un peu de portugais.
Cyril, dans votre livre « Mordu de la pêche », vous nous présentez les poissons les plus combatifs du monde. Moi, malheureusement, quand j'ai commencé à pêcher au lac Sept-Îles, dans Port-Neuf, il n'y avait que du crapet soleil. J'en ai sorti à peu près 1500. Et il y a, je pense, à peu près le poisson le moins combatif au monde. À l'extrême, diamétralement opposé, quel serait, pour vous, le poisson le plus combatif au monde?
Le plus combatif, je te dirais tout de suite, spontanément, regarde, si on dit Québec, si on limite, parce que faisons deux zones géographiques, si on se tient aux poissons du Québec, tu aurais l'achigan. L'achigan à petite bouche, je dirais, qui est vraiment ultra combatif. Et en mer, au niveau mondial, ça serait de loin les carangues. La carangue, qui est tous ceux qui me connaissent savent que j'adore les carangues. Alexandra, tu as dû me voir sortir des carangues à droite, à gauche. Les carangues, c'est vraiment c'est un poisson de mer, mais qui est explosif dans ses attaques. C'est un vrai prédateur, il est féroce. Le combat est vraiment soutenu, puis c'est des magnifiques poissons. C'est vraiment une très belle bête. Surtout la carangue du Pacifique, celle qu'on retrouve dans le Pacifique Sud, notamment les îles de Polynésie, Hawaï, jusqu'en Australie. Elle est aussi dans l'océan Indien. C'est des endroits qui sont magnifiques. Tu les pêches dans des mers émeraudes, des poissons de récif. Donc, tu peux voir, en fait, le fond, mais tu les vois attaquer visuellement. C'est vraiment un super poisson. C'est vraiment... ouais, j'adore.
Moi, je me demande, Cyril, écoute, t'es allé partout dans le monde, puis l'émission a beaucoup évolué aussi à travers les années. Puis évidemment, c'est une émission de TV, fait que je me dis, c'est sûr qu'il y a une partie là-dedans qui est organisée avec le gars des vues, comme on dit. À quel point, lorsque tu vas te perdre dans le bois, qu'on se ramasse sur une île déserte, à quel point il y a du vrai puis du faux là-dedans?
Ouais, faudrait que tu lui parles à mes caméramans. Tu vois, des fois, ils auraient tendance à vouloir que ce soit un peu plus arrangé avec le gars des vues, justement, parce que on se retrouve dans des endroits, des fois, où on n'avait pas vraiment anticipé que ça allait être aussi extrême. Je te dirais que non, on fait vraiment de l'exploration. Comme tu vois, là, demain, on part pour 40 jours en Amazonie. On va dans un coin où on n'est jamais allé. On part, justement, là, les derniers préparatifs, c'est a-t-on les moustiquaires, a-t-on les hamacs, a-t-on les réchauds à gaz, a-t-on tous les panneaux solaires pour charger les batteries de caméra, a-t-on tout le stock, tout ce qu'il faut pour survivre dans la jungle, les vivres de base, parce qu'on va attraper des poissons, on va manger du piranha, parce que ça, il y en a tellement, et puis c'est délicieux. Mais a-t-on quand même de l'huile, a-t-on de l'huile, du beurre, on amène du café, c'est vital le café. Moi, je ne peux pas me faire une journée sans un café pour démarrer la journée, même au milieu de l'Amazonie. Donc ouais, on va vraiment dans des endroits vraiment reculés, super perdus, et non, c'est la... La réalité, des fois, ce qui a arrangé, c'est que peut-être que, tu sais, au montage, c'est sûr que quand nous, ça nous a pris 4 jours pour s'y rendre, ben, on le montre en quelques images au lieu de toute la péripétie. On ne montre pas tout parce que c'est sûr qu'on ne pourrait pas tout faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le livre, c'était aussi pour raconter de certains éléments qu'on n'a pas eu le temps de montrer ou qu'on n'a pas pu montrer à la caméra, mais qui sont dans le livre parce que ça me donnait l'occasion d'en parler, justement. Comme mes caméramans, il y en a qui ont failli y rester, littéralement, qui ont failli mourir. Il y en a un de mon caméraman principal, d'ailleurs Christian, qui était un Québécois, il est revenu avec une maladie tropicale qu'on a ramené de la jungle en Bolivie. Et il a passé je ne sais pas combien de temps à l'hôpital, il y avait 4 ou 5 cas au Canada. Les médicaments devaient être importés d'Allemagne. La leishmaniose, c'est une maladie qui te mange. Toi, soit tu l'as au niveau viscéral, soit tu l'as au niveau cutané. Il l'avait au niveau cutané, mais ça lui commençait à lui manger le front, le nez, c'était proche de l'œil. Donc les médecins commençaient à paniquer et ils faisaient des biopsies les unes derrière les autres pour arriver à déterminer ce que c'est. Ils ne savaient même pas ce que c'était la maladie.
Okay.
On va vraiment dans les endroits... honnêtement, je pense que si je n'étais pas le producteur de cette émission, on ne pourrait pas la faire. Parce qu'il n'y a aucun producteur qui nous laisserait partir dans ces endroits. On dirait non, au niveau des assurances, je ne peux pas vous laisser partir, c'est trop dangereux. Mais vu que je suis le producteur, je prends le risque, moi. Et puis mes gars, ils savent quels sont les risques, mais ils embarquent dans l'aventure parce qu'ils sont, ils me connaissent, puis ils savent qu'on va pas dans des, que s'il y a vraiment un danger vraiment évident, j'ai assez d'expérience que je vais leur dire non, on n'y va pas. Mmh. On va prendre des risques, on va mesurer les risques, et quand on y va, quand on va de l'avant, on sait pourquoi on y va. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai repris le contrôle de la production parce que je me dis, si on veut garder la qualité de cette production, si on veut l'amener où on va, il faut que je la contrôle pour pouvoir pour pouvoir m'assurer qu'on va pouvoir faire les trucs qu'on a besoin de faire pour se rendre à ces endroits de fou sur la planète.
Cyril Choquet, je vous ramène à ma propre expérience. Je vous parlais de ma pêche au crapet-soleil. Je vous ai dit qu'il y avait juste du crapet-soleil au lac Sept-Îles, mais il y a aussi de la barbotte. Et la barbotte, ça t'avale un hameçon, ça l'avale jusqu'au trou de pète. Vous savez c'est quoi un trou de pète? Mais tout ça pour dire que les barbottes, en plus, elles ont deux épines de chaque côté. Moi, je me suis déjà piqué avec, sur une des épines de la barbotte. Mais vous, là, vous nous avez parlé de votre caméraman, mais vous, avez-vous déjà senti votre vie en danger? Vous êtes-vous déjà blessé allant à la pêche?
Ouais, absolument, oui, oui. On le parle dans le livre, d'ailleurs, il y a un chapitre là-dessus. Hein. À un moment donné, il y a cette fameuse histoire du dard qui m'a suivi pendant toutes ces années où j'étais allé, on avait fait un épisode au Honduras. Et en plus, on était dans une région vraiment perdue au Honduras, accessible uniquement en hydravion. Il faut mettre 3 heures d'hydravion pour s'y rendre. Et je m'étais piqué moi-même avec le dard d'une raie marine. L'animal, la raie, c'est une raie pastenague en fait, mais donc le dard est venimeux. Et je m'étais piqué avec et j'avais souffert le martyr. Mais j'ai jamais craint pour ma vie. À ce moment-là, ça faisait une douleur incroyable. J'en parle dans le livre parce que justement, ça c'est un exemple. À un moment donné, j'ai dû laisser l'équipe de caméra. Moi, je suis parti de mon côté pour trouver un médecin dans le village qui pouvait m'injecter un antidote. Je raconte tout ça, tout le chapitre, la pluie diluvienne que je me suis pris sur la tête à 2 heures du matin dans la noirceur totale du village parce qu'il n'y a pas l'électricité, à chercher le médecin dans le village, donc à taper sur sa porte pour le réveiller à 2 heures du matin pour qu'il me donne une injection que j'ai refusée au dernier moment parce que je me suis souvenu quand il m'a sorti la seringue et qu'il allait m'injecter dans le dispensaire qui était 4 planches coulées ensemble, quand il allait m'injecter l'antidote, j'ai pas vu parce que je venais de m'évanouir, j'ai pas vu d'où il avait sorti la seringue. Et la seringue était pour moi souillée. Et là, je me suis souvenu la recherche que je venais de lire de mes recherchistes qui disaient que l'Amérique centrale et notamment la Mosquitia, la région où on était, avait le plus haut taux de sida dans toute l'Amérique centrale. Donc je me suis dit, OK, je vais pas mourir du dard de raie. Mais j'ai pas envie de me choper le sida, donc je refuse l'injection. Des trucs comme ça, il nous en est arrivé plein. Et pour moi, pour répondre à ta question, le moment où je pense que j'ai failli mourir, j'en parle aussi dans le livre, là vraiment j'ai eu cette vision, ok là c'est fini, c'est le dernier moment. On était sur une île au Nicaragua, je voulais absolument pêcher de cette île parce qu'elle était superbe, je pensais qu'en étant sur l'île, ce serait mieux que si je la pêchais du bateau vers l'île. Ça aurait été mieux de pêcher de l'île vers le large. Donc, je me suis fait déposer avec mes caméramans sur l'île, puis les vagues ont commencé à monter. J'ai réussi à sortir les caméramans, c'est les premiers à être sortis de l'île, à remonter sur le bateau. Et moi, j'étais le dernier, puis là, le niveau d'eau était tellement monté, la marée était montée super haut. Et à un moment, il y a une vague énorme qui est arrivée, puis je me suis dit, celle-là, parce que, en fait, le plateau rocheux donnait sur des gros blocs de roches. Et il y avait tellement de courant là-dessous que si je me faisais aspirer là-dedans, c'était terminé. Puis la vague, elle m'a carrément, littéralement couché à terre. Elle m'est passée par-dessus. Elle devait faire 3-4 mètres de hauteur. Et j'ai réussi à m'agripper sous les rochers. Mais ma pensée à ce moment-là, sous l'eau, sous la vague, pendant 2-3 secondes, c'était bye-bye.
Aïe, aïe, c'est fou comme histoire, là. Mais c'est fou aussi de se dire que saison après saison, tu continues de retourner dans des endroits toujours plus fous les uns que les autres. Mais je me demande, avec la COVID, comment va se passer les prochains tournages? Ben, premièrement, est-ce qu'il va y avoir une 9e saison? Et si oui, avec la COVID, est-ce que ça complique un peu les tournages?
Absolument. Ouais. Ça a rendu tout beaucoup plus compliqué que prévu. On a des problèmes de production, des obstacles, je dirais pas des problèmes, mais c'est vraiment des barrières, enfin des obstacles à franchir pour arriver à tourner. L'avantage que ça a eu, c'est que ça nous a forcé à rester au Canada pour un certain nombre d'épisodes. On vient de faire 4 épisodes, peut-être 5, dans le grand nord de la Colombie-Britannique, un endroit superbe. On était à la frontière de l'Alaska, on est resté 55 jours là-bas et on a fait des tournages absolument spectaculaires parce qu'on ne pouvait pas sortir à ce moment-là. Maintenant, on peut sortir, on a trouvé des gens qui peuvent nous organiser des voyages dans un contexte de Covid comme au Brésil, là où on va demain, en Amazonie. Mais le Canada, ça nous a... En fait, on devait aller en Amazonie au départ. Mais du coup, on n'a pas pu aller en Amazonie, donc on a priorisé la série Canada qui devait être faite plus tard dans le temps. On l'a mis en premier. et on a retardé le tournage en Amazonie. Et du coup, ça m'a fait découvrir une autre zone que peut-être j'aurais découvert que dans un an ou jamais. Et le nord de la Colombie-Britannique, ça me fait vraiment dire qu'on a des espaces au Canada. Et ça, c'est au Québec. Le nord du Québec, c'est la même chose. On a des espaces ici. Je veux dire, il n'y a pas besoin de courir la planète pour aller faire des chevaux d'avance.
Es-tu déjà venu pêcher ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean?
Ça fait 10 ans à peu près que j'ai un épisode, que j'avais écrit des idées, d'idées pour un épisode dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'avais plusieurs lieux. Je veux aller pêcher, bien sûr, le lac. Je veux aller pêcher la rivière à Chamonchouane. Il y a plein d'endroits où je veux aller. Je voulais aller à la Sainte-Marguerite aussi. Il y a plein d'endroits. Et pourquoi le tournage ne s'est jamais fait? Vous demanderez à votre office du tourisme de la région de nous rappeler. Et puis, on va l'organiser. Je ne sais pas pourquoi on n'a jamais réussi à faire tournage. Moi, je vais aller pêcher partout au Québec. Honnêtement, je crois qu'on a fait toutes les régions du Québec. Puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai envie, juste le fjord, tout ça, toutes ces régions, là, il y a tellement de choses à faire.
Ben oui, quelqu'un nous dit que ce serait cool qu'ils viennent sur le fjord du Saguenay pour la pêche aux poissons de fond en hiver. Vous êtes jamais venu?
Non, mais on en a discuté aussi. Les pêches sous la glace, ouais, des sébastes et tout ça. Il y a même des requins qui passent de temps en temps, des requins du Groenland. Ben, c'est des prises accidentelles. Mais il y a vraiment une super aventure. Il y a vraiment un super tournage à faire. Moi, je suis... Moi, j'ai mon souhait est là, mais à un moment donné, il faut qu'on ait du backing, il faut qu'on ait de l'aide, de l'accueil sur place, des offices du tourisme. Même au Brésil, c'est sûr qu'on est accueilli par le gouvernement, on est accueilli par des offices de tourisme dans les différents pays. Ça nous arrive que ce soit pas le cas du tout, mais c'est rare. Donc, je suis en train de lancer le message à votre office du tourisme.
Voilà, on va faire le suivi. Quelqu'un vous invite sur la rivière Péribonka aussi. Cyril Choquet, c'est disponible depuis le 14 octobre dernier aux éditions de l'Homme mordu de la pêche. Et moi, mon rêve, c'est de réussir à vous envoyer une partie de pêche avec ma collègue Alexandra.
Oh, j'aimerais tellement ça!
Ben, Alexandra, avec plaisir, quand tu veux. On essaye de s'organiser. Mes journées de pêche sont limitées hors caméra parce que j'ai de moins en moins de temps, mais ça serait avec plaisir.
Non, je veux que ce soit filmé.
Non, que
ce soit filmé. Alexandra va vous donner un très bon show. Ça va être l'émission qui va avoir le plus d'écoute que vous aurez jamais eue.
Ça serait cool. Tu vois, j'ai réussi à trouver une. Je suis allé pêcher justement. Vous parliez de Roque Voisine. On allait pêcher ensemble l'été dernier. On s'est trouvé une journée. On allait faire un peu de pêche. Mais Alexandra, on va se trouver le temps de faire ça.
Hey, j'aimerais vraiment ça.
Avec plaisir.
Émotion. Super. Cyril, salutations à Stéphanie.
merci beaucoup.
Bye-bye.
Merci.
Salutations et merci pour l'invitation. Merci à vous.
Grand plaisir. Cyril Choquet, qui a publié aux éditions de l'Homme mordu de la pêche. On lui aurait parlé jusqu'à 18h non-stop.
Puis il part en Amazonie demain.
Ça tente pas?
Je sais pas. Écoute, après les maladies tropicales qu'il nous a parlé, je sais pas à quel point ça me tenterait d'aller là-bas.
Non. Hein.
Non.
Alors voilà, plus tard dans les arts et spectacles, parce qu'on est déjà rendu là.
Ben oui, mon Dieu, je suis toute déboussolée, là, écoute, dans les... mon Dieu, je suis vraiment contente. C'était vraiment un beau moment. Je tiens à le dire, c'était écrit dans mes livres de radio, là.